Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Le Visage du Monde. Petite chronique scientifico-culturo-poétique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un aspect largement ignoré du comportement animal, l'homosexualité. Bien que l'homosexualité des animaux ait été observée par les scientifiques depuis l'Antiquité, elle est très peu connue de tout un chacun. Par le passé, les chercheurs la considéraient comme une anomalie, mais ils conviennent aujourd'hui qu'elle est au contraire courante et fait partie des comportements normaux des animaux. L'homosexualité a ainsi été scientifiquement observée chez plus de 450 espèces d'oiseaux et de mammifères. La variété et l'exubérance sont des principes que l'on rencontre partout dans la nature. La sexualité n'y échappe pas. Chez beaucoup d'animaux, quand un mâle veut séduire une femelle, il parade. Selon son espèce, il danse, il chante, il fait des cadeaux. Il y a des poursuites et des jeux avant que l'accouplement ne se produise. La même chose se passe entre deux mâles ou deux femelles. Parfois, ils ont même des parades spéciales qui ne se font qu'entre animaux homosexuels. Quand un mâle d'autruche veut séduire un autre mâle, il fait des pirouettes particulières qu'il ne fait jamais pour une femelle. Quand les macaques rhésus femelles se font la cour entre elles, elles jouent à cache-cache. Un jeu auquel elles ne jouent jamais avec les mâles. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les couples d'animaux homo sont d'aussi bons parents que les couples habituels. Parfois, ils offrent même à leurs petits de meilleures ressources alimentaires ou une meilleure protection contre les prédateurs. Chez les mammifères, il arrive que deux femelles qui ont chacune une portée choisissent de vivre et d'élever leurs petits ensemble. Les jeunes ont alors deux mamans qu'ils peuvent téter quand ils veulent. Ils auront plus de chances d'être bien nourris et bien protégés qu'avec une seule mère. C'est le cas chez les grizzlies, les renards et les phacochères. Chez les oiseaux, des couples de sternes, de goélands ou d'oies, composés de deux femelles, peuvent choisir de nicher ensemble. Elles s'accouplent chacune avec un mâle de passage et pondent toutes les deux leurs œufs dans le même nid. Les femelles chouka et goélands cendrés construisent même deux nids collés l'un à l'autre. Chacune pond et couve ses œufs de son côté, puis ils peuvent ensuite être échangés d'un nid à l'autre. Les couples de cygnes noirs mâles élèvent souvent des petits plus nombreux et en meilleure santé que les couples formés d'un mâle et d'une femelle. Pourquoi donc ? À eux deux, ils sont plus forts pour défendre un grand territoire qu'un couple doté d'un seul mâle. Parfois, les couples homosexuels adoptent un jeune dont ils ne sont pas les parents. Deux guépards mâles s'occupent d'un orphelin. Un couple d'éléphantes de mer adopte un petit abandonné. Deux mâles de mouettes rieuses élèvent un œuf ou toute une couvée abandonnée par une femelle. Alors, il y en a certains qui osent encore affirmer que l'homosexualité serait contre nature. Ils ont tort. L'homosexualité est dans la nature. If I didn't know, that's words always come last. You never see them first. When you're feeling alive, when you're feeling alive, you never see you coming. You were too blind to see it.
That's something for you to know. say that I don't wanna see your face no more without a say. Don't come running back to me, cause I'm not gonna set you free and I don't want no misery. Go your ways, baby.
When you're feeling alive,
when you're feeling alive,
never see you coming,
never see you
too
coming.
Blind to see.
When you're
problem solved. I'm running back here, baby.
Inside.
Go away, go away, go away, go away. You never know when you suffer a good thing until you lose it. Now you're like a cow that gets a gallon of milk and turn around and kick it over. Yeah, baby, you're playing the game of a gold digger. Just because you're looking good and you have a good shape on a figure.
If you treat me like you do, I'm gonna turn my back on. So tell me, who you gonna run to?
That's your problem.
Where you gonna hide?
And I'm not gonna solve it.
Who you gonna tell that you're hurt inside?
Really, I don't care, baby. Really and truly, I don't care.
Who you gonna run to? Where you gonna hide?
That's a musical question.
Tell that you're hurt inside.
Girl, you know you got to go. Girl, I don't wanna see your face no more. I'm gonna tell you, you're full of pain and misery. Yeah, your problem. I don't wanna have you solve it. Go away, baby. Move on your memory, like I'm gonna tell you. Try to understand what I say.
C'était Ungrateful Girl de U-Roy. Nous sommes au cœur de l'automne. Je vous propose donc de partir à la rencontre de trois fruits sauvages qui s'épanouissent en ce moment. J'ai écrit le texte que je vais vous lire pour le numéro 194 de la revue La Salamandre. Il s'appelle « Destin de fruits ». Nous allons commencer par le fils du chêne, le gland. Au commencement est le fruit. Dans un bruit de papier froissé, le vent taquine les feuilles du chêne et provoque le grand saut. Un gland vient de plonger. Au bout du pédoncule, la cupule reste vide. Le lampadaire a perdu son ampoule. À terre, le gland est vulnérable et convoité par les animaux en quête de réserves pour l'hiver. Parmi eux, l'écureuil. Le rongeur n'hiberne pas et quitte quotidiennement le nid pour aller se nourrir. Ou presque. Le mauvais temps peut l'empêcher de sortir pendant plusieurs jours. On trouve parfois 5 adultes pelotonnés dans leur refuge, tous repus. Une ration de survie de glands leur a-t-elle permis de résister aux coups de froid? Beaucoup de glands se trouvent ainsi grignotés. Ils n'arborent jamais ni rameaux, ni feuilles foisonnantes. Le fruit offre aussi un berceau aux balanins des glands. Le rostre de cet insecte ressemble à une trompe d'éléphant. Il permet à la femelle de perforer les jeunes glands pour y déposer un œuf, parfois deux. Puis le trou se referme, comme la caverne d'Ali Baba, laissant la larve se nourrir du trésor. Cachée, celle-ci attend que le gland tombe en automne. Elle perce alors une porte de sortie, extirpe difficilement son corps dodu, puis s'enfouit dans le sol pour y passer l'hiver. D'autres ont la chance d'être ramassés par un pépiniériste peu ordinaire. Le jet des chênes plante des glands dans le sol pour les cacher à 4 ou 5 cm de profondeur, et à intervalles réguliers. Puis, il crée une carte mentale du lieu en choisissant surtout les grands arbres comme balises. Lorsque l'oiseau revient sur les lieux en hiver, il retrouvera la cache grâce à ses repères élevés, moins susceptibles d'être recouverts de neige. Toutefois, le corps vidé n'est pas infaillible et laisse de nombreux glands en terre. Une nouvelle génération va naître de cet oubli. Au printemps, le jet revient et déterre légèrement les jeunes plantules pour en prélever les cotylédons, très nutritifs. Ce faisant, il casse quelques racines, obligeant la jeune plante à les reformer et à renforcer ainsi son réseau racinaire. Futur chêne centenaire, planté par un oiseau jardinier. Maintenant, je vais vous parler du gui. Une peau transparente qui laisse entrevoir. Une chair opaque qui sème le trouble. La plus aérienne des plantes terrestres invite à prendre de la hauteur. Le gui est la seule plante ligneuse européenne à porter des baies blanches. Son mode de propagation aussi est unique. Son secret ? Une chair visqueuse et collante appelée vicine et l'aide de certains oiseaux. Parmi eux, la grive draine, alliée efficace qui gobe les baies sans digérer les graines. Elle les rejette en chapelet de fientes qui s'entortillent aux branches. La pulpe gluante restée autour de la graine se fixe au rameau. Bientôt, l'écorce sera percée à l'aide d'un suçoir en forme de clou et le gui poussera jusqu'à devenir la boule que l'on connaît. Tous les oiseaux ne sont toutefois pas complices du parasite. Le bec puissant des petits passereaux, comme la citelle torchepeau ou le gros bec, broie les graines récemment collées aux branches. La mésange bleue est particulièrement forte à ce petit jeu. Le stratagème du gui est alors déjoué. Le chêne était sacré pour les Gaulois. Pilier du ciel et arbre du soleil, le chêne avait sa lune, le gui. Les druides redoutaient la perte des feuilles de l'arbre vénéré. Mais comme la lune brille au cœur de la nuit, le gui reste vert tout l'automne, puis tout l'hiver. Cette plante qui se joue des saisons était un signe miraculeux. Les druides voyaient en elle un remède universel. Ils collectaient le gui avec une serpe d'or et accueillaient sa chute avec un drap blanc. La plante ne devait jamais toucher terre, sans quoi tous ses pouvoirs étaient perdus. Les parallèles entre spiritualité ancestrale et réalité scientifique sont parfois étonnants. Il a été découvert que le gui est utile dans la lutte contre le cancer. La plante détruit les cellules malades sans s'attaquer à celles qui sont saines. Les druides, savants de l'ancien temps, ne s'étaient pas trompés. Et pour finir, un dernier fruit d'automne, la guirlande généreuse du lierre. Contrairement au gui, le lierre n'est pas un parasite. Il utilise l'arbre comme support mais tire sa subsistance du sol. Couverture protectrice lorsqu'il fait froid, climatiseur naturel quand les chaleurs reviennent, le lierre favorise même la croissance de l'arbre. Comme tous deux sont en quête de lumière, la pousse de l'un stimule celle de l'autre. Il peut malgré tout arriver que le lierre prenne le dessus, mais uniquement lorsque l'arbre est malade. Beaucoup d'autres habitants de la forêt profitent des largesses de la liane. En été, les chenilles de l'azuré du nerprin font bombance de ses feuilles. Puis, alors que toutes les autres fleurs ont disparu, celle du lierre offre l'ultime nectar automnal qui régale vanesses, abeilles et bourdons. Quand le froid se fait plus présent, les fleurs font place à d'innombrables petits fruits verts qui deviennent bleus une fois l'hiver installé. Cette abondance avant l'heure attire une foule de passereaux affamés. Troglodytes et pinsons virevoltent en se gavant de baies. Leur euphorie trouble à peine le sommeil d'une chouette-ulotte. Derrière le rideau végétal, elle somnole, bien cachée. Plus bas, une musaraigne carrelée inspecte la jungle providentielle. L'insectivore dédaigne les fruits, mais visite le dos des feuilles. Qui sait ? Elle y trouvera peut-être un malchanceux citron, papillon endormi qui se croyait à l'abri. C'était Fleur d'Auger dans Le Visage du Monde sur Radio Sainte-Afrique. Un grand merci à Antoine, à la technique.